Vous écoutez
RMC.
RMC.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Tu bluffes, Martini. Il bluffe.
Pas sûr.
Pour la côte de Witikon, eh bien, Tadej Pogacar a décidé de secouer le cocotier et de faire peur à 100 km déjà, à peine, je veux dire, de l'arrivée à toute la concurrence.
Si, il bluffe là, ça se voit tout de suite.
On est à 86 km de l'arrivée et Pogacar est en tête de la course, tout simplement.
T'as pas l'air de bluffer là quand même.
Si, il bluffe là.
Nous avons désormais 17 hommes qui sont en tête avec Pogacar légèrement détaché mais qui est en train de se faire reprendre.
Tu bluffes, Martini. Ton arme n'est pas chargée.
Tadej Pogacar qui effectivement a fait exploser le reste de l'échappée.
Peut-être qu'il bluffe, hein, peut-être qu'il avait qu'une seule balle.
Il se met la main devant la bouche, le coude sur le genou, d'un air de dire je n'en reviens pas. Quelle journée pour Tadej Pogacar. Il a éparpillé la concurrence à 100 km de l'arrivée et au terme d'une échappée en solitaire de 51 km, il est sacré champion du monde 2024.
Je vais voter, il bluffe pas.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins.
Il y a lui et les autres, il y a le roi et les valets. Pour sa première sortie avec le maillot arc-en-ciel hier, Tadej Pogacar a encore détruit ses adversaires et remporté le Tour d'Émilie. 6 jours après son raid fantastique de 100 km aux Mondiaux, vous l'avez entendu, le champion slovène a cette fois-ci lâché ses derniers rivaux à 37 km de l'arrivée. Qui dit mieux ? Pogacar a signé sa 24e victoire de l'année. Bon, à un moment donné, on a arrêté de compter, hein, mais on pense que c'est autour de la 24e victoire de l'année. En 56 jours de course, la musique qui fout les jetons. Et cette question, Pogacar est-il en train de tuer l'intérêt des courses ? Oui ou non ? Christophe Cessieux.
Oui.
Jérôme Pinault.
Non.
Fred Weiss.
Non.
Marion Bartoli.
Non.
Il y a du non, mais il y a quand même du oui avec Christophe. Avant de débattre, on va retrouver la voix du cyclisme sur RMC. Arnaud Souk. Bonjour Arnaud.
Salut les amis.
C'est vrai que Pogacar a écrasé encore une fois la concurrence. On peut le dire, hein, il aura tout fait cette année.
Hein. Des attaques de loin, des victoires pleines de panache, des stratégies surprenantes, hein, comme lors des championnats du monde, on l'a entendu, où à 100 km de l'arrivée, Evenepoel a décidé de ne pas suivre Pogacar, pensant que son attaque était, je cite...
Quelques instants, il y a un petit son qui est assez catastrophique. On revient, évidemment, tu vas nous raconter cette saison mémorable de Pogacar. On commence ce débat avant de retrouver Arnaud Souk. Pogacar est-il en train de tuer l'intérêt des courses ? Je sens, il lève la main comme un enfant.
Non,
à l'école.
Mais parce
il lève
la main. Arnaud était en train de nous expliquer du championnat du monde. Et de là, déjà, quand on est observateur affûté comme Christophe, on ne doit pas pouvoir parler de championnat du monde comme une domination de Pogacar. On doit d'abord parler d'une énorme faute tactique de ses adversaires. Une énorme faute tactique. Déjà, on doit commencer par ça. Quand tu es l'ultra favori d'un championnat du monde, au même titre que Tadej Pogacar, et qu'il y en a, ils sont trois, les mecs.
Oui.
Trois favoris. Il y en a un qui attaque, tu ne le suis pas. Au moment de la course où ils sont
loin, ça fait un immense débordé.
Est-ce que justement, Jérôme, le fait qu'ils soient si dominateurs dans toutes les courses auxquelles ils participent n'a pas fini par casser la résistance
pas
de ces adversaires.
Gens-là, Christophe, Evenepoel
et Van Der Poel, mais ils se disent, alors déjà, il y a deux analyses, soit ils se disent il est trop fort, on n'y va pas,
mais non.
Soit ils se disent il va se tuer tout seul,
oui,
et on récupérera
c'est
tout
trop loin.
Et soit ils évoquent, on était en surnombre encore, et on était mal placé.
Oui.
Et t'es malade. C'est une faute professionnelle. Moi, je peux te dire un truc, c'est que si Julien Alaphilippe n'avait pas chuté, il y a au moins une chose qui est sûre, au moins une, c'est qu'il était calé dans la roue de Pogacar.
Oui, je te dis pas calé, qu'il aurait suivi. Calé pendant combien de temps ?
Ah ben voilà.
Tu as vu les mecs qui s'accrochaient à ça ?
Non, mais
ils tiennent 100 mètres, 200 mètres, ils explosent comme du popcorn.
Je vais me battre aujourd'hui contre une chose, que les gens qui me regardent dans les yeux et me disent « Pogacar ». Parce que c'est contre ça qu'il faut qu'on lutte. Parce qu'il n'y a plus personne qui croit. Parce que derrière tout ça...
Tu me dis qu'il est dopé ?
Bah, tout le monde me dit ça. Évidemment, le grand public dit
ouais,
bah, c'est pas possible.
Oui, non, mais, ça,
mais déjà, déjà
le vélo.
Si ses adversaires courent comme des débiles, oui, il va tout gagner.
Je vais te faire un autre comparatif. Moi, je le compare en ce moment à ce qu'a fait Verstappen pendant 2 ans.
Et ce que faisait Nadal à Roland Garros,
mais c'est ce qui a créé Djokovic.
Et ce qu'a fait Merckx pendant 10 ans, où il dominait la tête et les épaules. Eddy Merckx à l'époque,
la domination dans le sport.
mais ça aide à faire progresser les autres. Il tuait les courses et surtout, il était détesté par l'ensemble du public. Quand il arrivait sur une course française, on entendait des « Ah bah merde !»
Il a même pris un coup au foie au Puy-de-Dôme
par un spectateur. Je me rappelle un commentateur français qui, après une victoire d'Eddy Merckx, dit Merckx, encore Merckx, toujours Merckx. Oui, et ben il tuait l'intérêt pour les courses parce que chaque fois qu'il était au départ d'une course, on savait qu'il allait gagner. C'est un peu la même chose avec Pogacar et c'est pas bon pour l'intérêt d'un sport. Par exemple, Verstappen, pendant quelques années, la Formule 1 était remontée au sommet de la vague parce que il y avait la guerre et il y avait la rivalité.
On a fait des débats en début d'année, Verstappen est-il en train de tuer la F1 où tout le monde voyait Verstappen tout gagner dans le sport, tu sais pas.
Aujourd'hui, tu sais pas, mais parce que là, effectivement, t'as des écuries qui sont mises à travailler. Là,
et puis les autres équipes, elles vont travailler aussi.
Autour d'Emily hier, tu savais qu'il était au départ, tu savais qu'il allait gagner. Parce que de toute façon, il était en mission.
Mais
c'est le meilleur coureur du monde et les mecs ne croient plus en leur chance de pouvoir l'attaquer.
C'est le meilleur coureur hier. Alors, c'est là où je voulais en venir et c'est les observateurs malveillants qui mettent ça en avant. Il a encore une fois gagné. Mais Tadej Pogacar, c'est l'un des meilleurs coureurs de l'histoire du cyclisme.
Mais moi, je veux pas aller sur l'histoire du
Le deuxième hier, c'est Tom Pidcock. Il lui arrive pas à la cheville. Il lui met 2 minutes. Mais c'est normal sur une course si difficile que ça. Et faut pas qu'on prenne l'argument à chaque fois pour ressemer cette espèce. Je n'ai aucune certitude de ça.
Mais c'est pas du tout
ce que je sais. C'est que ce qu'il fait avec un maillot de champion du monde sur le dos hier, moi, ça me fait plaisir. J'adore voir ça.
Voilà. Mais moi aussi, j'adore le voir. Bon, ok.
Et ben justement, vous allez pouvoir en parler dans quelques instants. Arnaud Souk est donc avec nous. Arnaud, t'étais en train de nous conter cette année folle de Pogacar.
Oui, et je revenais surtout sur le fait quand même que Evenepoel avait décidé de ne pas le suivre pendant les championnats du monde. Il avait pensé que, il l'a dit après la course d'ailleurs, que cette attaque de Pogacar à 100 km de l'arrivée était suicidaire. Il n'a pu que constater finalement les dégâts à l'arrivée dans les rues de Zurich. La saison avait d'ailleurs commencé dans le même registre pour le Slovène qui, à peine le vélo sorti pour sa première course de la saison, gagnait l'Estrade Bianche au terme d'un raid en solitaire de près de 80 km. Bref, la saison de Poggi, si elle n'a pas été ponctuée que de victoires au long cours a été un véritable récital, 24 succès en 56 jours de course, un seul véritable échec si l'on peut dire, la troisième place lors de Milan-San Remo en mars où il n'avait pu se défaire de la concurrence dans le Poggio, dépassé notamment par le sprinter Philipsen, quoi de plus normal sur la Via Roma. En tout cas, si ça n'est déjà fait avec cette année 2024 absolument fantastique, il reste désormais une course à Pogacar pour rentrer un peu plus dans la légende, le Tour de Lombardie, dernier monument de la saison. Une quatrième victoire consécutive en Italie viendrait conclure une saison où il aurait gagné deux grands tours, le maillot arc-en-ciel et deux monuments, bah ça serait tout simplement du jamais vu.
Du jamais vu, et ce qu'il va gagner, ce sera le week-end prochain, on en parlera évidemment. Merci beaucoup Arnaud Souk d'avoir été avec nous. Mario Bartoli.
Alors moi j'aimerais revenir sur les éléments effectivement de Jérôme, je suis complètement d'accord avec lui. Tout d'abord je pense que Pogacar va tirer les équipes vers le haut parce que la Visma, ils vont pas à chaque fois regarder le Tour de France en disant bah, c'est Pogacar qui va gagner, donc de toute façon ils vont tenter de progresser. Comme Nadal et Federer ont créé Djokovic. Djokovic est créé parce qu'il a vu Federer et Nadal dominer, il s'est dit bah, moi aussi je m'applace, moi aussi je ma part du gâteau et finalement tu crées quelque chose d'encore plus grand. J'aimerais poser une question à Jérôme parce que ça m'intrigue et ça m'intéresse énormément d'avoir ton avis. Pour l'instant, Pogacar n'a jamais participé à Paris-Roubaix. On sait qu'il a un profil très léger, avec un poids léger. Est-ce que tu penses que dans sa carrière, il va jamais tenter de remporter ce monument? Est-ce qu'il va changer son profil? On a vu Van Der Poel perdre énormément de poids pour essayer d'être champion du monde. Est-ce que lui va essayer d'en gagner pour gagner Paris-Roubaix? Et est-ce que du coup, tu crois justement que comme il n'a pas encore tout gagné, qu'il lui reste des courses à gagner, on a parlé de Milan-San Remo et là je te parle de Paris-Roubaix. Il y a encore des choses à aller chercher, donc justement ça garde le piment et ça garde cet intérêt de le voir courir.
Il a encore quelques monuments qu'il n'a pas gagné, qu'il n'a pas à son palmarès, notamment la Vuelta, le Tour de Lombardie, ce qui va être chose faite dimanche, si tout va bien.
C'est une grosse fête pour lui, pour Lombardie.
Elle est pour lui, c'est celle qui lui correspond mieux. Paris-Roubaix, il le tentera un jour, selon les déclarations de son team, hein, de Mauro Gianetti, il le tentera un jour pour aller gagner. Il est un peu comme Bernard Hinault, c'est pas plus excité que ça par cette course dont il a peur, mais on a tous peur de Paris-Roubaix. Par contre, il va essayer de la gagner parce qu'il veut rentrer dans l'histoire. Maintenant, comme tu le dis, il y a évidemment des sacrifices à faire pour gagner cette course. Et ce sera, je pense, l'année où il aura peut-être tout gagné ou décidé de pas aller sur le tour, par exemple, parce qu'il a été battu. Parce que dans ce débat-là, Chris, tu en es le témoin. L'an dernier, il n'était pas imbattable. Il a pas tout écrasé. C'est-à-dire que cette année, je pense que le meilleur coureur du monde et de l'histoire du cyclisme est seul au monde cette année. Il est un peu plus fort que l'année dernière et il est seul au monde puisque ses adversaires, que ce soit sur le tour comme Vingegaard ou Evenepoel, ont pas eu la régularité qu'ils avaient avant.
Ce que tu disais, et je vais relancer Christophe parce que pour lui ça a un peu tué l'intérêt des courses et après évidemment je te donne la main Fred, ce que tu disais pour terminer juste avant qu'on réaccueille Arnaud, tu disais mais moi le voir attaquer de si loin,
mais c'est fantastique.
Bah ça me plaît. Est-ce que toi Christophe, sachant qu'au départ
ce panache est fantastique,
aujourd'hui en ce moment le seul intérêt d'une course
c'est de savoir quand il va attaquer,
quoi.
Je suis pas d'accord avec toi Christophe, je pense que
sur le Tour de Lombardie il peut prendre le départ dès le drapeau a baissé. Et j'ai même l'impression qu'il s'en amuse, ça, Poggi. Il est tellement au-dessus des autres qu'il doit se lancer des défis pour le motiver. Parce qu'autrement, il sait que de toute façon, quand il va démarrer, il va tous les planter là. Est-ce qu'il pourrait pas se lancer un défi, justement? Moi, je lui lance. Tadej, essaye, dans le Tour de Lombardie, de partir dès le... Même avant, tu sais quoi? Dès le départ fictif. Là, il y aurait
du
talent et du panache.
Après, où je te rejoins pas, c'est sur le championnat du monde. Tu peux pas dire ça. Ok, on a attendu. Il a attaqué. Quand il attaque,
mais
il
c'est lui qui fait le suspense à lui tout seul finalement. En attaquant à 100 bornes, ils ont dit peut-être qu'ils vont.
Mais c'est ça qui est intéressant.
Jérôme est témoin. Le vélo, je n'y comprends rien. Je n'aime pas forcément ça. Et mais qu'est-ce qui m'a plu sur le Tour de France? Alors à part Christophe Cessieux, évidemment, mais c'est justement Pogacar, c'est ses attaques, c'est le fait qu'il soit là, qu'il soit omniprésent. Tu te dis quand est-ce qu'il va attaquer, quand est-ce qu'il va mettre tout le monde sur place. Et l'intérêt pour un néophyte, encore une fois, je ne suis pas aussi
précis. Mais rappelle-toi de l'année dernière, Fred.
C'est d'avoir quand même mais honnêtement, moi j'ai adoré ce moment. Et encore une fois, j'étais souvent à RMC et tout le monde se levait en disant. Ça y est,
moi qui ai vécu les derniers tours, celui de cet été, mais c'est vrai que de toute façon moi j'adore Poggi, j'adore sa façon de courir.
Cet été la plus belle des étapes,
l'année dernière, il y a deux ans, l'année dernière c'est quand le contre-la-montre face à Vingegaard lorsqu'il est battu alors qu'on pense qu'il va éclater la concurrence, là il y avait du suspense, il y avait une rivalité entre les deux.
Mais qui te dit Vingegaard va pas revenir l'année prochaine?
J'espère, mais je le souhaite de tout cœur.
C'est pas sa faute s'il éclate tout le monde, si c'est le meilleur.
Je lui reproche juste du fait qu'aujourd'hui quand tu regardes une course pendant 5 heures et qu'à 100 bornes de l'arrivée t'as le mec qui s'échappe, tu sais que tu peux éteindre la télé, tu reviendras 2 heures après pour le voir franchir la ligne
passionné,
parce que tu sais qu'il y aura
qui passionné de vélo.
D'autre.
La semaine dernière, je suis sorti d'ici, on a appris la chute du Julien Alaphilippe, il a fallu digérer parce que ça m'a fait chier de dire bon, alors déjà un Français en moins, sachant que Pogacar est ultra favori, tu rallumes la télé 2 heures plus tard. Pogacar seul en tête avec une minute d'avance, t'éteins.
Toi aussi, t'es d'accord avec moi, il tue l'intérêt pour les courses en ce moment.
Il tue pas l'intérêt parce que pour l'instant, si toi
tu éteins la télé pour revenir 2 heures plus tard, excuse-moi si c'est pas tuer l'intérêt.
Parce que je regarde les 50 km, il est parti à 100 bornes. Tu dis, bon, bah ça y est, c'est fait. Mais encore une fois, sur ce genre d'événement-là,
il y a eu des erreurs des autres équipes aussi.
Exactement. Et c'est le cyclisme.
C'est pas parce qu'il est.
Oui, si ses adversaires baissent les armes. Et là, il y a une guerre psychologique.
Et
alors,
qu'ils sont en train de les baisser.
Ah oui, clairement. Ouais. Evenepoel hier abandonne. Je suis même pas sûr qu'il aille autour de Lombardie. Bon, de toute façon, l'autre, il est trop fort. Mais mec, si t'es un champion, t'as pas le droit de dire ça, en fait. Il faut aller dans l'adversité. Vingegaard va se repréparer pour le tour l'an prochain. Pogacar a eu ce passage à vide. L'année dernière, il perd le tour. À la sortie du tour, il dit, l'année prochaine, je vais aller sur le Giro. Ouais. Aveu de faiblesse.
Comme Vingegaard a décidé aussi pour
il n'est pas infaillible. Il n'est pas infaillible. Deuxième image forte cette année au mondial. Tout le monde dit, il a ultra dominé. Panique à bord dans les 25 derniers kilomètres où il perd des secondes. Il a plus de bidon, il loupe ses deux bidons pour un mec qui est tout seul sur un boulevard. C'est quand même pas très logique. Et dans le final, il est limite. Il profite aussi de la guerre Belgique-Pays-Bas.
Ouais.
Dans le final, si Van der Poel et Evenepoel s'entendent, bien sûr,
il bénéficie aussi de l'appui inespéré d'un coureur de l'équipe de France qui est son équipier tout à l'heure de la saison.
Alors là, carton rouge, évidemment. Mais ça, est-il vraiment un coureur de l'équipe de France ou est-il un coureur plus attaché à son club qu'à son équipe nationale?
On en fera un débat une nouvelle fois. Kevin nous appelle au 32-16. Bonjour Kevin.
Une fois.
Kevin est là.
Allô.
Bonjour Kevin. Merci d'être avec nous ce matin. Pogacar, tu tiens l'intérêt des courses? C'est notre débat. Vas-y.
Ouais. Alors...
alors bah en fait il y a Jérôme a dit beaucoup de choses de ce que je voulais dire. Je vais juste rajouter un dernier argument sur tous ceux que j'avais que j'ai vu. Donc moi je pense qu'il tue pas l'intérêt et le dernier argument que j'avais pour rajouter c'était qu'il y a un nouvel adversaire en fait aujourd'hui à Pogacar qui est plus sur un vélo depuis de longues années. Vous avez fait le débat la semaine dernière je crois ou hier, c'est Eddy Merckx. C'est Eddy Merckx, c'est-à-dire que derrière l'intérêt de chaque course, il y a aussi cet intérêt sur le plus grand, le GOAT, le plus grand coureur de tous les temps. Et en fait, on va comme ça à chaque fois cocher des cases, à chaque fois qu'il gagne une course, pour faire le bilan en fin de carrière. Et il y avait eu le débat, je crois que c'était l'année dernière, où j'avais appelé justement, vous faisiez le débat sur est-ce qu'il peut devenir le plus grand coureur de tous les temps. Et il est dans la course, il n'y a pas de souci. Donc il reste cet intérêt-là en plus. Et puis, la dernière chose que je voulais dire, c'est oui, sur certaines courses, on peut imaginer que Pogacar va gagner et on est quasiment sûr. Mais il y a toujours l'incertitude sur comment il va gagner. Et puis, dernière chose, qu'il est beau à voir courir. C'est-à-dire que même s'il n'y a plus l'intérêt compétitif et sportif, il reste toujours l'intérêt esthétique parce que purée, qu'est-ce qu'il est beau sur un vélo quand il se dresse sur ses pédales. C'est vachement agréable à regarder et c'est toujours impressionnant.
Oui, et puis
j'aurais
c'est vrai.
Dû finir pour,
vas-y, Kevin.
Pour valider, je change un tout petit peu de sujet, mais ce que disait Christophe hein, sur Mbappé et sur son idée des auditeurs contre-attaque pour proposer des sujets. Franchement, Christophe, je valide à 200% cette idée-là qu'on puisse lancer des sujets aussi de temps en temps. Parce que moi, je fais partie de ces auditeurs qui écoutent l'émission à partir de 9h30 quand on a fini de parler d'Mbappé. Mais bon.
Alors, c'est 9h50
plutôt. Il faut rester encore un peu. C'est de plus en plus tard.
T'aurais voulu parler de quoi aujourd'hui, par exemple, dis-nous.
Eh ben, moi, j'aurais fait un sujet aujourd'hui parce qu'on a eu le retour de Paris, enfin, même le premier match du Paris Basket en Euroleague. Et moi, je vous aurais posé la question des GG, ça peut être le débat caché du jour. C'est un PSG Basket version Qatari. Est-ce que ça vous fait rêver?
Ouais, c'est une
Fred, ça fait rêver.
Moi, ça me fait rêver, évidemment. Ça fait des années qu'on en rêve, mais pour l'instant, c'est pas passé. Alors, juste petite précision.
Non, mais c'est vrai qu'il y a
Paris Basketball, bon... qui risque de tomber dessus, sinon.
Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a un bon débat basket cette semaine sur le financement. Vous avez vu que la NBA a l'intention peut-être de rentrer dans le game en Euroleague. Et est-ce que voilà, il y a peut-être un truc à faire autour du basket.